Au quotidien, avec Hélène Denis.
Pouvez-vous croire, on en est déjà à la mi-juillet, en plein cœur de l'été, 15 juillet 2026. La journée s'annonce belle et beaucoup plus stable que celle d'hier. Et finalement, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Il semblerait que la fumée a ralenti les ardeurs du temps et de la température. Un mal pour un bien, comme dirait l'autre. Alors, on se plaindra pas. N'est-ce pas, Mathieu?
Effectivement, non, on se plaindra pas. C'était fou hier en rentrant. Je suis retourné vers 18h. Je suis passé par le plateau et ça sentait le feu de bois.
Pour vrai?
Il y avait énormément de fumée.
Ah, OK. Oui. Je ris parce que je pensais au barbecue, mais non, le feu.
Ça sentait vraiment le bois brûlé. Oh, ouais.
Isabelle est dans le barbecue, mais on va comprendre pourquoi plus tard. Alors oui, ça sentait brûlé, mais ce sont des feux, hein?
Oui,
des feux de forêt de l'Ontario, du Manitoba, ça avait des effets jusqu'au Québec. Et des paysages, certains parlaient de paysages post-apocalyptiques. Ouais. On a justement une photo à la une du Devoir, j'y reviendrai tantôt. Isabelle, vous avez vécu ça de quelle façon? Là, est-ce que vous avez vu ce genre de paysage-là hier? J'imagine que oui, là, vous n'avez pas vécu sous une roche hier.
Bien, j'ai l'impression que oui, parce que j'ai fait ma petite journée au planétarium jusqu'à 16h. Puis après ça, je suis rentrée à la maison. Puis toute fenêtre fermée à cause de la chaleur, donc j'ai pas... J'ai vu ce matin, quand j'ai regardé les prévisions, qu'il y avait des petits, le nouveau symbole de fumée qui s'est ajouté il y a une couple d'années, plusieurs heures de la journée. Donc, c'est comme ça, dans le fond, que j'ai réalisé que ça s'était rendu jusqu'ici. Hier, j'ai vu que c'était couvert, puis que ça, visuellement, ça ressemblait à la fumée qu'on a vécue les autres années, mais je regardais la qualité de l'air, puis c'était... Excellent, donc je me disais, non, ça doit juste être nuageux.
Oui, mais il y avait de la fumée, mais ça dépend, je pense, de sa situation. Elle était quand même assez élevée dans le ciel, donc ça affectait moins les poumons, mais quand même, les gens qui ont des problèmes pulmonaires, les gens qui sont plus vulnérables devaient faire attention. On doit toujours faire attention, de toute façon.
Toujours.
Isabelle, aujourd'hui, je pense que c'est une belle journée pour manger dehors, se faire un barbecue.
Ben, je pense que oui. Hier, c'était un peu trop chaud, à mon avis. Là, quand il fait encore 30 à 10 heures le soir, c'est non. Mais oui, c'est ça. Puis bon, c'est ça, on parle de feu, mais de feu de camp sur lequel faire cuire de la nourriture. Et évidemment, on s'assure de l'éteindre quand on a terminé, parce qu'on veut pas démarrer un feu
bien
de forêt.
Oui.
Mais c'est un dossier de cet article qui a été inspiré par le livre « Dehors » du chef Étienne Nadeau, qui est chef de deux restaurants à Québec, dont un qui a été recommandé par le guide Michelin. Donc, on va voir ça avec vous. Là, les bonnes raisons pour manger dehors et les petites recettes.
Mais c'est merveilleux, ça. Alors, on va vous garder plus longtemps aujourd'hui. Et on salue Serge qui a dû abandonner le projet de venir ici ce matin. Il n'était pas vraiment en forme. Alors, reposez-vous bien, cher Serge. On va vous retrouver bientôt, la semaine prochaine, j'imagine. Sinon, qu'est-ce qu'on aura d'autre au menu, c'est le cas de le dire? On parlera avec Eric Preach, que vous connaissez peut-être, un humoriste très populaire sur les réseaux sociaux, comédien. Il va jouer son premier grand rôle au théâtre dans la pièce d'une de ses grandes idoles, François Pérusse. C'est la pièce « Boulevard Pérusse ». Hier, il y a eu une représentation, une avant-première, et aujourd'hui, ce soir, c'est la première médiatique. Alors, on va lui demander comment il se sent. Et c'est une pièce qui est présentée tout l'été au Théâtre Lionel Groulx de Sainte-Thérèse et puis qui partira en tournée au Québec en 2027. Sinon, nous aurons des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette et on part ça avec une chanson de Miel de montagne.
Miel de montagne, j'y peux rien.
À la une du Devoir, la fumée des feux arrive à Montréal. Un voile jaunâtre est venu envelopper mardi matin le ciel de plusieurs régions du Québec causées par la fumée des feux de forêt qui brûle le plus à l'ouest, en Ontario. Rien d'inquiétant en matière de qualité de l'air pour mardi et mercredi. A toutefois assuré Environnement Canada, les orages violents prévus dans plusieurs régions du Québec mardi devaient d'ailleurs accélérer le retour à la normale. Le ciel bleu devrait donc être de retour dès aujourd'hui, mais il demeure impossible de savoir si la fumée reviendra perturber le ciel québécois dans les prochains jours, selon Jean-Philippe Bégin, météorologue de sensibilisation à Environnement Canada. Et à la une du Devoir papier, nous voyons une belle photo aérienne du stade olympique et le ciel assez jaunâtre. La fumée des feux arrive à Montréal. C'est une nouvelle qui est annoncée aujourd'hui, mais les feux sont arrivés hier. Ferronnerie d'art et forge, ces premiers diplômés seront-ils les derniers? Les nouvelles attestations d'études collégiales en métier du patrimoine disparaissent déjà, faute de financement. Ariane Godbout, toujours dans Le Devoir. Avec des pinottes, on a fait des miracles, mais là, on est en train de nous enlever les pinottes, déplore Marc Douénard, président du Conseil des métiers d'art du Québec, alors que la première remise des diplômes du programme d'attestation d'études collégiales en ferronnerie d'art et forge en mai dernier devait être une nouvelle source de réjouissance, la nouvelle est assombrie par la suspension de cette formation et de sept autres AEC, attestation d'études collégiales en métier du patrimoine bâti, faute de financement. Le Devoir est au Festival d'Avignon. Je le vois comme une manière de m'abreuver. Des étudiants du Conservatoire québécois prennent part au plus grand rendez-vous du théâtre francophone de la planète. Assis en cercle pour discuter avec le Devoir dans la cour de leur auberge, les élèves des conservatoires d'art dramatique de Québec et de Montréal laissent échapper un peu de fébrilité. Il y a de quoi, dans quelques heures à peine, ils joueront pour la première fois de leur vie au Festival d'Avignon. Le plus grand rendez-vous du théâtre francophone au monde. C'est toute une première. Depuis le début de leur cursus, les étudiants des deux conservatoires n'ont même pas le droit de jouer de manière professionnelle au Québec, sauf à l'intérieur des murs de leur conservatoire. C'est pour des raisons pédagogiques, pour qu'ils se consacrent à 100 % à leur cursus, indique Jonathan Gagnon, le directeur du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Mais il y a 3 ans, la direction du Conservatoire d'art dramatique de Montréal a eu l'idée de jouer avec cette règle en organisant un voyage scolaire au Festival d'Avignon. Maintenant, la une du Journal de Montréal, l'avocat accusé de crimes sexuels, les récits troublants se multiplient. Une étudiante et 2 ex-employés de Daniel Rochefort se sont confiés à notre bureau d'enquête. C'est à lire dans le Journal de Montréal. L'Université de Montréal a été informée d'allégations d'inconduite sexuelle de l'avocat Daniel Rochefort sur des étudiantes dès 2012, soit une décennie avant qu'il ne soit officiellement renvoyé à découvert notre bureau d'enquête. L'Université de Montréal soutient qu'elle n'a pas pu réagir aux allégations visant son chargé de cours, Daniel Rochefort, pendant plusieurs années en raison de ses propres règlements. Les informations rapportées sur ce que M. Rochefort aurait fait et dit alors qu'il était chargé de cours ne sont pas des gestes que nous cautionnons. Cela contrevient aux valeurs de notre établissement, a expliqué Geneviève Omera, porte-parole de l'Université de Montréal. Selon elle, le pouvoir d'action de l'université était limité sous son ancienne charte qui n'a été modifiée qu'en 2018. Et puis, à la une de la presse plus, accès limité, baignade au Québec, aux alentours de Montréal, au pays des lacs et des rivières. L'accès au plan d'eau est encore et toujours trop rare et quand on peut se tremper les pieds, on doit souvent payer, même par grande chaleur. Alors, c'est un dossier à lire qui est signé Marie-Ève Moras. Résumé, une étude qui est menée par des chercheurs de l'UQAM et de l'Université de Montréal révèle que moins de 2% des 48 000 kilomètres de rives des lacs et cours d'eau accessibles par la route au Québec sont réellement publics, le reste étant privatisé. Cette situation est particulièrement marquée près des grands centres. Dans un rayon de 90 km de Montréal, seuls 56 des 596 lacs sont accessibles au public. Autour de Québec, seulement 21 des 183 lacs le sont. Et il y a Marie-Ève Mingot qui s'exclame en découvrant le prix lorsqu'elle est allée pour se saucer dans le Grand Lac des Sables. 16 $ par adulte pour la journée. Si la plage a l'air belle, dit la femme en regardant vers le lac, elle observe que là où elle vit, à Barrote, en Abitibi-Témiscamingue, on ne paye pas pour aller nager. L'article illustre les conséquences de cette rareté. Des municipalités comme Sainte-Adèle imposent des frais élevés aux non-résidents pour accéder à leurs plages, tandis que les plages publiques comme celles d'Oka, de Verdun ou du Mont Orford sont souvent bondées lors des périodes de grande chaleur. Et puis, à la une de la presse, on n'y croit presque pas. « Salut, je suis là! » Point d'exclamation, c'est Jean Leloup. Alors, il a accordé une entrevue à Jean Sillag et à la veille donc de la première, à quelques heures de la grande première du spectacle « Paradis perdu » avec le Cirque du Soleil qui lui rend hommage, qui rend hommage à son répertoire. Et Jean Leloup donc a accordé une entrevue. À 65 ans, l'artiste affirme mener une vie paisible depuis qu'il a cessé de consommer il y a environ 15 ans. Et concernant un éventuel retour sur scène, Leloup n'en ressent pas le besoin. Il n'exclut pas toutefois ni un nouvel album, ni de futurs concerts si l'envie revient. Et quand on lui demande s'il sera à la première, peut-être que oui, peut-être que non. Mais pour l'instant, on ne le sait pas. Ce sera une grande, grande surprise si Jean Leloup est dans la salle et il va attirer autant l'attention que ce qui va se passer sur la scène. On verra bien, mais il n'aime pas ce genre d'événement-là, de première médiatique. Alors peut-être qu'il va s'arranger pour y aller lors d'une autre représentation. La presse à Dallas, aux larmes et non aux armes, aux larmes citoyens. La France a été menottée par l'Espagne qui passe en finale de la Coupe du monde. Et une autre nouvelle choc, le fromage Oka devient français. Agropure vend sa division de fromage fin au géant Lactalis.
Comme la lune, la nuit apparaît dans ma vie. Elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glances. And every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais.
Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart. Kill it with us in the sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais.
ça me rendrait hé, si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là, mais tu ne me vois pas. C'est où, 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 tu ne me vois pas. C'est où, 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 mais je suis. Et derrière là. Chacun de tes pas, je suis là, mais tu ne me vois pas. C'est où, 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 tu ne me vois pas. C'est où, 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 mais je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où.
Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait hé, hé, hé. Mais tu iras où, où, où.
Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait hé, hé, hé.
La chanson reste, c'était Sting et Gims.
Deux superbes voix. Merci Mathieu. Isabelle Falardeau, on vous écoute et on salive déjà.
Oui. Alors, j'ai trouvé ça dans la presse. C'est un dossier de deux articles sous le thème « Un été relax ». Le premier article, « Manger à l'extérieur en toute sérénité ». Ça va nous donner des bonnes raisons de manger dehors. Et puis, dans le deuxième article, des recettes pour cuisiner dehors, ben vous l'avez deviné, je vais vous donner des recettes pour mettre ces bons conseils en application. Alors, les deux articles sont signés Florence Doncause et ont été publiés le 11 juillet dernier. On commence par nous rappeler hein, comment l'été, on prend le temps de ralentir autour de bons repas, que ce soit en camping ou sur notre terrasse. Et c'est aussi le moment de se connecter aux aliments et de faire place au plaisir gustatif. L'article, en fait, le dossier est inspiré par le chef Étienne Nadeau, qui est chef des restaurants Ambre et Saison à Québec. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Non.
Le restaurant Ambre a été nommé, en fait, recommandé par Michelin. Donc, il n'y a pas eu de mention spécifique, étoile, gourmand ou peu importe, mais il est dans la liste des restaurants recommandés, ce qui est quand même une belle distinction. Et donc, lui, le chef Étienne Nadeau vient de publier un livre intitulé tout simplement « Dehors », où vous allez voir, il nous donne des recettes vraiment détaillées pour le plus possible profiter du temps là et quand même bien manger quand on va en camping ou tout simplement quand on mange dehors. Bref, il dit que ses trips de camping avec sa conjointe sont des instants privilégiés où il peut souffler, parce que oui, on peut imaginer là, que comme chef, il travaille vraiment fort. Et lui, profite de ces moments passés à l'extérieur pour quand même cuisiner de petits festins et en privilégiant toujours des ingrédients locaux. Dans son premier livre de recettes, donc, qui vient de paraître, il incite les gens, il nous incite à sortir de notre zone de confort en nous tenant en plein air, mais sans se casser la tête. Et ça, c'est vraiment lui qui va nous permettre de le faire, là, de ne pas se casser la tête. Comme il l'a dit, on fait la préparation chez nous et quand on est dehors, on ouvre une bonne bouteille de vin, on prend le temps de faire les dernières étapes des recettes. Donc, c'est vraiment les dernières étapes, des étapes faciles qu'on peut faire là, tout en dégustant une petite bouteille de vin. Ou un verre de jus, là, si vous ne buvez pas d'alcool, bien sûr. C'est une très bonne idée aussi.
Ou un mocktail.
Un petit mocktail, oui, effectivement. Je ne sais pas, je serais curieuse parce que je n'ai pas mis la main sur le livre, j'ai simplement lu l'article, donc peut-être qu'il donne aussi des petites idées de mocktail.
Ah, peut-être.
Des choses faciles, en tout cas, ou sinon peut-être le deuxième tome, ça serait intéressant, là, des choses faciles à préparer en camping. Mais bref, c'est ça, alors que le reste de l'année se déroule sous le signe de l'efficacité, les repas estivaux sont plutôt synonymes de lenteur et de lâcher prise. Et ça, c'est Alain Girard qui nous le dit. Il est professeur-chercheur à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, l'ITHQ, mais il est aussi sociologue de l'alimentation. Et il nous rappelle qu'avec le soleil qui se couche tard, ben, on peut se permettre des apéros qui s'étirent en soirée, par exemple. Et selon la nutritionniste Caroline Cloutier, ben, ces occasions de manger tranquillement, ça facilite aussi l'alimentation en pleine conscience. en portant attention au moment présent, l'alimentation pleine conscience. Et donc, au moment présent, sans jugement, ben, on peut mieux écouter nos signaux de faim et nos signaux de satiété, ce qui est vraiment bon pour notre santé. Elle dit, si on mange dehors, on ressent le vent sur notre peau, on entend les oiseaux qui chantent. On est ainsi connecté à ce qui nous entoure et à ce qui se trame dans notre assiette. Mais elle rappelle que s'ancrer au moment présent, ça peut se faire dans n'importe quel repas, même si on est pressé. Donc, on n'est pas obligé d'attendre l'été. Mais c'est encore plus facile. Ce qu'elle nous dit pour manger consciencieusement, on prend plaisir à traverser toutes les étapes de la préparation des repas. L'été, ça peut être de mettre le steak sur le barbecue et d'entendre le crépitement qui nous fait déjà saliver avant le repas. On peut aussi mettre plus de soin dans l'art de dresser notre table extérieure. Donc, c'est les petits détails, s'accrocher aux petits détails de chaque étape de préparation du repas. Étienne Adot, donc le chef auteur du livre Dehors, nous dit « Un feu, c'est plaisant, ça prend un peu de temps à faire, mais justement, ça te force à prendre le temps. » J'aime beaucoup ça, cette expression-là. Alors, son truc, lui, pour bien cuisiner sur le feu, c'est avoir plusieurs zones de cuisson. Il va rassembler ses braises d'un côté pour avoir une zone de cuisson plus intense, et ensuite, il va se réserver un coin moins chaud qui va servir de réchaud. Il suggère aussi l'ajout de pierres, donc qu'on fait chauffer dans le feu, et qui va nous permettre de réguler la cuisson. J'imagine que ça va être plus expliqué en détail dans son livre. Et ensuite, il nous dit « Le feu n'est pas parti, c'est pas grave. Quand on cuisine dehors, on s'adapte. On peut toujours se tourner vers d'autres méthodes de cuisson, évidemment, comme les réchauds au gaz, mais on peut aussi cuisiner sans cuisson. Il y a d'ailleurs une des deux recettes là, que je vais partager avec vous, c'est une recette sans cuisson. Et, en fait, sans cuisson au camping. Il dit aussi, en fait, là, on retourne au sociologue de l'alimentation, Alain Girard. L'été, il y a des transgressions douces de normes sociales et de temporalité. Par exemple, on a envie de manger une crème glacée le matin? Pourquoi pas? Nos amis nous invitent à un pique-nique le dimanche soir, puis on travaille le lendemain. Allez hop, on prépare quand même notre panier et on va pique-niquer avec eux. C'est vrai qu'on s'en permet un peu plus en été. Et il dit aussi que les plaisirs gustatifs de l'été sont aussi souvent reliés à l'enfance. On pense aux popsicles et aux aliments qu'on mange autour de la piscine et on veut partager ça avec nos enfants. Et c'est vrai que moi, je me rappelle quand je mange un... comment on appelle ça ici? C'est
Les guimauves?
Mr. Freeze.
Non, ah oui, OK.
Ouais, les guimauves, c'est sûr que ça fait toujours penser effectivement au camping, mais Mr. Freeze, moi, ça va toujours me faire penser au chalet.
Oui.
Je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a des petits.
Ben, j'imagine que vous en mangez au chalet?
Ben, effectivement. C'était probablement la seule place où j'en mangeais quand j'étais petite. Alain Girard nous rappelle aussi que la saison estivale est synonyme d'accès à des produits locaux frais. Il y a des aliments qu'on attend avec impatience, hein, comme les fraises, le maïs. Les premières tomates de champ de l'été sont tellement meilleures que les tomates de serre.
Ça n'a rien à voir.
C'est pas mentionné ici, mais là, il y a les premiers bleuets qui viennent de sortir sur le marché. Donc, c'est
les framboises.
Oui, effectivement. Donc, quand on mange un ingrédient frais, ben, il est moins transformé, évidemment, et ça nous connecte encore plus à lui, selon Alain Girard. Étienne Adot aussi aime, évidemment, manger des légumes de saison, mais il aime aussi aller directement voir les producteurs au marché fermier ou à leur boutique. Ah, moi, je ne sais pas pour vous, là, mais quand je suis en vacances, j'aime ça m'arrêter là, sur une petite fromagerie, une petite boutique là, qui vend des produits locaux.
Aller à la rencontre des producteurs.
C'est vraiment... Donc, lui, il nous suggère vraiment de s'inspirer de ça. Il dit, si tu vas sur la Côte-Nord, arrête-toi aux poissonneries et prends leur poisson le plus frais. Si c'est un doré fraîchement pêché, ben ma recette de crudo de flétan va pouvoir être facilement ajustée. Bref, on choisit là, l'aliment qui est frais ce jour-là.
Oui, on s'adapte.
Et la nutritionniste Caroline Cloutier, elle nous suggère aussi d'avoir un petit potager dans notre cour, évidemment, si on peut se le permettre. Moi, j'ai juste des petites plates-bandes, mais ne serait-ce que pour les fines herbes, ça peut être intéressant. Mais elle dit, on développe encore plus de gratitude envers les aliments quand ça a mis 3 mois à pousser.
Gratitude, c'est vrai.
Oui, gratitude envers les aliments. Et en terminant, c'est Alain Girard qui nous la donne. On profite donc de l'été pour plonger dans ses saveurs en toute conscience et avec plaisir. L'été a un goût de petits fruits et un feeling de blé d'Inde pris entre les
dents. Oh, avec du beurre puis trop de sel. Oh, c'est tellement. Tellement bon. Alors, le titre au complet, Isabelle, ben, je vous l'avais dit tantôt, là, dehors, mais après ça, on peut lire Feu de camp et bonne bouffe en camping par Étienne Nadeau. Et son livre est publié aux éditions de l'Homme. J'ai vérifié le prix $39.95. Et on va essayer de se le procurer là, pour être en mesure de savoir s'ils offrent ben, toute la façon aussi de préparer le feu, là, parce que c'est pas évident là, pour tout le monde.
Oui, je suis sûre qu'il donne des conseils plus en détail là, dans le livre. Moi aussi, j'ai vraiment le goût de me le procurer, pour vrai.
Oui, hein? Bon, alors, on va s'en reparler si on arrive à mettre la main dessus et si on est capable de voir aussi s'il y a des mocktails, si on se posait cette question-là un peu plus tôt.
Oui, effectivement.
Chose certaine, il y a des recettes dans son livre et vous allez en partager avec nous parce que, justement, Florence Dancause en donne. Alors, des recettes estivales à cuisiner en plein air. Restez avec nous. Isabelle va nous en parler, va les partager avec nous, ces recettes. Donnez-nous une idée là, de ce que vous allez nous offrir comme recette.
Il va y avoir du poisson et une salade froide tiède, en fait, de mascarpone et de jambon blanc.
Oh, j'ai déjà faim. Mascarpone et jambon blanc, ça va être excellent, ça. Merci, à tout de suite. Je dis à tout de suite, mais on va écouter d'abord une belle chanson de Les Louanges. La journée va être chaude.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Êtes-vous toujours là? Steak sur deux. Perdu quelques feuilles. Chaque pas, chaque jour nous rapproche un peu plus du cercueil. Loin de moi l'idée de gâcher votre fun, mais la journée de demain s'annonce chaude. C'est pas une question de si, c'est une question de quand. C'est pas une question de qui, c'est une question de temps.
Alors que la maison brûle, on va danser à l'ombre alors que la maison brûle. On fait comme tout le monde. Tous les jours, tout le temps, cette même voix que j'entends. Cette même voix que j'entends. Tous les jours, tout le temps, à chaque seconde, chaque instant. Oh, je le sais, je le sens que la journée va être chaude. Je pense à toutes ces choses. La journée va être chaude. On alimente le feu sur cette roche qui réchauffe. Combien de temps à pas vouloir comprendre? Tellement de gens que je veux plus entendre. L'enfer c'est pas les autres, ton voisin ou la gauche, mais celui qui fait du profit à tes laissés dans l'eau chaude. Alors que la maison brûle, soleil de plomb, alors que la maison brûle, on va danser à l'ombre alors que la maison brûle. On fait comme tout le monde. Tous les jours, tout le temps, cette même voix que j'entends. Tous les jours, tout le temps, à chaque seconde, chaque instant. Oh, je le sais, je le sens que la journée va être chaude. On alimente le feu sur cette roche qui réchauffe.
La journée va être chaude, selon les louanges.
Oui, les louanges et son album Alouette, point d'exclamation, qui est dans la course au prix Polaris pour l'album canadien de l'année. Il est maintenant dans la courte liste. Il a réussi à se tailler une place dans la courte liste en vue de la cérémonie du 22 septembre à Toronto, aux côtés, entre autres, de BB Club et d'Angine de poitrine. Isabelle, allons-y donc avec vos recettes tirées de la Presse Plus.
Oui, alors tout simplement intitulé « Des recettes pour cuisiner dehors », c'est un autre article signé Florence Dancause. Et évidemment, c'est, comme je le disais, tiré du livre d'Étienne Nadeau,
ouais.
« Dehors ». Et je pense que toutes les recettes sont comme ça et c'est vraiment, vraiment ce qui me plaît dans ces recettes-là. Vous allez voir, on commence par nous donner les ingrédients et la préparation à la maison et au camping. Et ensuite, on nous donne les étapes de cuisson. Vous allez voir, c'est ça. On prépare chez soi, puis on a quelques petites étapes qui restent une fois rendues au camping ou au pique-nique, là, si jamais on fait du feu au pique-nique. Certains endroits le permettent. Bref, on commence par un poisson entier grillé et gremolata. La petite gremolata, là, c'est une salade là, de fines herbes. Je ne me souviens pas si c'est de quelle origine. Italienne?
I don't know. Je ne sais pas. Je vais regarder.
Est-ce qu'elle va faire les recherches?
Oui.
Étienne Nadeau nous suggère de choisir un poisson frais du jour qu'on va cuire entier sur le feu et on le sert avec la gremolata qui va être préparée à l'avance pour une assiette simple mais satisfaisante. On nous dit préparation 20 minutes. Donc, moi, je mets tout le temps le double parce que ça me prend plus de temps. Donc, 40 minutes peut-être.
Oui, c'est relatif, ça?
Mais ça, c'est la préparation à la maison. Et ensuite, cuisson 10 minutes en camping. Ça, c'est pour 4 portions. Alors, à la maison, les ingrédients. C'est essentiellement là, c'est les ingrédients de la gremolata.
Vous avez raison, c'est un mélange typiquement italien. En patois de Lombardie, gremola signifie en grain ou en semoule.
Ah, voilà. Et donc, c'est ça, c'est vraiment, vous allez voir, très simple. Un citron, le zeste et le jus. Deux petites gousses d'ail râpées finement. Et ensuite, deux cuillères à soupe des ingrédients suivants. Persil frais haché très finement. Basilic frais haché très finement. Vous pouvez faire ça au robot. Je ne l'ai pas fait, là, mais c'est le genre de recette que cette recette-là spécifiquement, je n'ai pas faite. Mais ça, vous pouvez faire ça. Si vous avez un petit robot culinaire, là, vous pouvez faire ça. Ciboulette fraîche hachée très finement. Échalote sèche ou échalote française hachée très finement. Et huile d'olive. Donc, toujours deux cuillères à soupe. Et ensuite, une pincée de sel. Ça, c'est pour la recette à la maison. Et pour le camping, bien, vous aurez besoin d'un poisson à chair blanche entier, doré, brochet, barre rayée, barre blanc. Mais on mentionne aussi, vous allez voir que ça pourrait être la sole. On dit de 60 à 800 grammes ou une livre et tiers à une livre et trois quarts. Pour me donner une idée. Et ensuite, simplement, sel de mer et poivre noir du moulin au goût. Deux cuillères à soupe d'huile d'olive et des quartiers de citron au goût. Les quartiers de citron, ça va tout simplement être pour presser du citron sur votre poisson là, au moment de servir. Donc, pour la préparation à la maison, dans un petit bol, mélangez tout simplement tous les ingrédients que je vous ai nommés pour la gremolata. Ensuite, une fois que c'est mélangé, vous déposez dans un petit contenant hermétique et vous conservez au froid jusqu'au moment de servir. Ensuite, une fois au camping, vous allumez un feu de bois et vous laissez de bonnes braises se former. Vous ouvrez le poisson en papillon, donc en le coupant le long du ventre ou du dos de manière à l'aplatir et vous conservez la tête. Ce qu'on nous dit là, c'est que si c'est un poisson plat comme la sole, vous pouvez laisser le poisson intact sans l'ouvrir. Épongez le poisson, puis salez et poivrez les deux côtés. Huilez légèrement. En fait, évidemment, là, on ne dit pas d'enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur du poisson. On présume que vous l'avez acheté en poissonnerie et qu'il avait déjà été enlevé. Mais si vous l'avez pêché le jour même, vous-même, évidemment, vous allez vider le poisson avant de faire ces étapes-là. Installez le poisson ouvert dans une grille refermable pour poisson. Donc là, c'est parce qu'on présume que vous faites ça sur un feu de camp. Évidemment, si vous êtes sur un barbecue, vous allez pouvoir le mettre directement sur la grille. Mais c'est quand même plus facile avec une grille refermable. Je le précise parce que c'est pas tout le monde qui a ça nécessairement. Ensuite, vous placez le poisson au-dessus des braises, côté peau vers le sol. Donc, on commence par la peau vers le sol. On cuit de 5 à 6 minutes de chaque côté, selon évidemment l'épaisseur du poisson. Et on retourne à mi-cuisson jusqu'à, dans le fond, jusqu'à ce que la chair se détache facilement à la fourchette. Donc, c'est vraiment assez rapide, là, parce que c'est cuit directement.
Ouais. Et un poisson trop cuit, c'est pas bon.
Non, c'est ça. Et c'est simple pour la présentation ou pour le service. On dépose tout simplement le poisson dans une grande assiette et on le garnit de grémolata et on sert avec les quartiers de citron.
Oh, ça doit être très, très bon.
Je pense que oui. Et ensuite, pour la salade tiède, mascarpone et jambon blanc, on nous dit que c'est un plat froid parfait comme accompagnement en camping. On peut sélectionner des légumes de saison trouvés dans un marché fermier. Évidemment, on mentionne certains légumes, mais c'est quelque chose qui peut se faire avec d'autres légumes qu'on aurait sous la main. Mais des légumes qui peuvent être grillés, vous allez voir. Donc, c'est une préparation de 15 minutes à la maison et cuisson de 5 minutes également à la maison. Et ça donne toujours 4 portions. Alors, pour la crème de mascarpone, simplement 200 g de mascarpone, 2 cuillères à soupe de lait, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel et poivre au goût. Et ensuite, pour la garniture, et là, il est vraiment, vraiment venu me chercher parce que moi, j'adore faire ça, faire griller des radis. 8 radis, une botte d'asperges et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, au camping, vous aurez besoin d'environ une demi-livre ou 200 g de jambon blanc de qualité coupé en tranches très fines, très minces, un filet d'huile d'olive et sel et poivre au goût. Donc, pour la préparation à la maison, dans un bol, vous déposez les ingrédients de la mascarpone ou le mascarpone, donc le mascarpone, lait, huile d'olive, salé, poivré, mélangé jusqu'à obtenir une texture lisse et vous déposez tout simplement dans un contenant hermétique que vous allez conserver au froid. Ensuite, vous lavez les radis, vous en coupez deux en tranches fines, ça va être pour la présentation, là, pour les mettre sur le dessus, avec une mandoline qu'on nous suggère ici, et on dépose ces tranches fines-là dans de l'eau fraîche pour les conserver. Et les autres radis, on les coupe en quartiers. Ensuite, on lave les asperges, on les coupe en tronçons. Selon la photo qui accompagne l'article, je dirais en deux ou trois morceaux par asperge, dépendamment évidemment de la longueur de votre asperge. On fait sauter les asperges et les quartiers de radis à la poêle avec l'huile d'olive de 2 à 3 minutes. Jusqu'à ce qu'ils soient légèrement tendres, mais encore croquants. Et ensuite, on les dépose, après les avoir laissés refroidir, évidemment, dans un contenant hermétique qu'on conserve au froid. Et après, ben, c'est vraiment tout simple. C'est pas mentionné ici, mais un verre de vin à la main ou un mocktail. au fond d'un plat de service, vous étalez la crème de mascarpone. Vous ajoutez les légumes sautés. Et par-dessus les légumes sautés, le jambon blanc et par-dessus les tranches de radis que vous avez réservées.
Bon.
Vous arrosez là, d'un filet d'huile d'olive et vous assaisonnez avec un peu de sel et de poivre et vous servez immédiatement.
Hey, moi, je fais du camping demain matin. Là, si on me dit que c'est au menu, ça a l'air trop bon.
Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que je déteste le camping, mais quand je vais au chalet, je trouve ça vraiment pratique d'avoir des recettes que je peux préparer d'avance et terminer en peu de temps. Et là, c'est quelque chose qui va vraiment épater aussi les personnes avec qui vous allez partager ça, parce que c'est pas juste la bouffe de camping facile, c'est quand même intéressant, varié et très beau, là, selon les photos là, qui accompagnent l'article. Là, c'est une très belle présentation.
Ah oui, des beaux plats, là, dignes de grands soupers. Et on retient les mots lenteur, lâcher prise, apéro qui s'étire en soirée, l'alimentation en pleine conscience, et pourquoi pas? Camping.
Oui.
Et le livre de Étienne Nadeau, Dehors. Merci beaucoup, Isabelle.
Merci, bonne semaine.
Vous aussi.
Bon appétit.
De la moutarde, du pain du beurre, de petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons.
Le poulet pas, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ombres boîtes et les tomates, les cornichons. Les confitures et les cornichons, la moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons, le poulet, les biscottes, les œufs durs et puis les cornichons.
On prend des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette de retour de vacances. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Julien, rédacteur en chef chez Franco-Presse. D'ailleurs, vous commencez avec une nouvelle tirée de Franco-Presse à propos de la Coupe du monde qui rassemble la francophonie.
Oui, à deux jours de la grande finale, on est allé voir si les communautés francophones suivaient la Coupe du monde. Puis, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment beaucoup de groupes qui organisent des visionnements des matchs. À Sudbury, par exemple, il y a une association d'accueil des immigrants qui présente certains des matchs sur la salle, sur l'écran d'une salle de cinéma coopératif ici en ville. À Toronto, il y avait le groupe de diaspora française qui diffusait les matchs. J'ai dit diffusait parce que la France a été éliminée hier. Hein? Donc, diffusait les matchs de l'équipe de France. Puis en Colombie-Britannique, la société francophone de Victoria diffuse des matchs avec la description en français. Même chose à Winnipeg, au Manitoba, puis à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Même du côté du Yukon, au Caribou RV Park, au camping, il y a une salle du restaurant, puis on diffuse des matchs, puis la salle se remplit. Ça crée un mélange parce que c'est des touristes et des résidents de Whitehorse qui se rendent pour voir les matchs. Donc, ça crée un achalandage record pour le restaurant et une ambiance particulière parce que à cause de ce mélange-là des gens qui sont là. Je crois que le soccer est de plus en plus populaire au Québec, là, mais c'est le cas également partout au Québec, au pays. Pardon. En Colombie-Britannique, dans l'article, on nous dit qu'en 2010, il y avait 60 000 personnes qui faisaient partie de diverses associations de soccer dans la province, en Colombie-Britannique. Ça incluait des joueurs et des entraîneurs. 15 ans plus tard, aujourd'hui, c'est rendu 150 000 personnes. Donc,
ça a plus que doublé.
Plus que doublé, ouais, exactement. Donc, tout ça est une bonne façon de rencontrer ces nouveaux voisins, entre guillemets, parce que les immigrants sont surtout en ce moment, sont plus ceux qui s'intéressent au soccer, au football, comme ils disent, quand ils arrivent ici. Donc, quand on veut les rencontrer, quand on veut voir ces nouvelles personnes qui arrivent dans notre communauté, c'est un bon endroit où les croiser.
Oui, vous nous donnez le goût d'aller camper au Caribou RV Park de Whitehorse au Yukon.
Je vous le conseille, c'est magnifique.
Whitehorse. Ah oui, vous connaissez, chanceux. Bon, alors on poursuit avec des entrepreneurs français qui réclament une liaison directe entre Moncton et Paris.
Il y a un sondage qui a été lancé sur une page Facebook de Français vivant à Moncton pour évaluer la pertinence d'une connexion de ce genre-là, une connexion aérienne. Il y aurait plusieurs avantages à l'avoir. Une des principales, c'est qu'en ce moment, les Français qui vivent en Atlantique, en Nouveau-Brunswick surtout, s'ils veulent retourner en France, doivent passer par Montréal ou Toronto pour la connexion. Donc, on s'en va vers l'ouest avant de repartir vers l'est. C'est pas l'idéal, puis ça rallonge les voyages et ça peut causer des problèmes quand il y a un des vols qui est en retard, surtout le premier. Donc, l'autre option aussi, c'est qu'il y a un vol saisonnier à faire à partir de Halifax, mais là, ça implique d'autres dépenses de se rendre à Halifax, de stationner la voiture, etc. Donc, en à peine deux jours, il y avait déjà 800 réponses sur le sondage qui avait été lancé, puis bon, l'appui à une connexion de ce genre-là était de 90 18 % dans le sondage. Bon, on pourrait s'y attendre, ce n'est pas un sondage scientifique aléatoire, là, c'est un sondage sur une page web, mais il y a quand même des données intéressantes là-dedans, parce que parmi les répondants, on dit aussi que l'objectif de d'avoir cette connexion-là, ce ne serait pas seulement de se rendre à Paris, mais de se rendre à Paris pour ensuite aller ailleurs, soit dans d'autres pays européens ou dans des pays d'Afrique. Puis comme on sait qu'il y a beaucoup d'immigration africaine aussi dans cette région-là, il peut y avoir un public intéressant pour ça. Il y a beaucoup de facteurs à considérer, donc ce serait aux aéroports et aux entreprises d'aviation d'évaluer si le volume serait assez important pour justifier la nouvelle connexion. Les organisateurs du sondage, eux, ont l'intention de présenter leurs résultats à des compagnies aériennes et au gouvernement du Nouveau-Brunswick, surtout pour tenter de lancer une première étude, une première vraie étude de marché.
Des franco-ontariennes invisibles mais essentielles, on en parle sur un site web qui s'intitule « On a le choix ».
Oui, on parle ici des femmes francophones qui vivent en milieu rural. L'Union culturelle des franco-ontariennes, qui est une association plus que centenaire, a voulu avoir plus d'informations sur ces femmes-là, puis on s'est vite rendu compte qu'il y a très peu de données fiables. Il y en a un peu dans le recensement, mais ce n'était pas assez pour ce qu'elles voulaient savoir de leur contribution à leur communauté. Alors, Luc Faux s'est chargé d'aller chercher ces données-là, puis elles ont publié un livre blanc à la fin juin. Le titre du livre blanc, c'est « Elles existent, mais les voit-on vraiment? » Ce qu'a compris l'Union, c'est que les femmes francophones en milieu rural sont en moyenne plus âgées qu'en milieu urbain, et elles jouent un rôle important dans la cohésion sociale de leur communauté et dans la transmission de la langue. Mais par contre, sont très peu représentés dans les postes de décision, comme en politique municipale. Ce qui fait que si les décisions qui sont prises, qui les concernent, ne sont pas vraiment là pour donner leur avis. L'Union a lancé cette étude-là après la perte du ministre de la Condition féminine au fédéral. Quand Mark Carney a été élu, qui a nommé son nouveau cabinet, il n'y avait pas de ministre de la Condition féminine. L'organisme craint qu'on considère moins... Il y a une perte de considération pour cette partie-là de la population francophone qui a encore un rôle important. Ce qu'elles aimeraient, c'est que le gouvernement de l'Ontario reconnaisse davantage le travail accompli par les femmes bénévoles, puis qu'il y ait un soutien financier pour les initiatives communautaires qui intègrent un indice de santé communautaire dans ces outils de planification.
C'est évident. Un soutien thérapeutique pour les jeunes à travers le jeu Donjons et Dragons.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est un jeu que vous aimez? Mathieu, pas Mathieu. Mathieu, c'est mon metteur en ondes qui est avec nous, qui est silencieux. Mais vous, très cher, parce que je sais que Mathieu est un fou des jeux en général, et vous?
Oui, j'ai ma partie de Donjons et Dragons tous les mardis.
Ah oui?
Oui, oui. Je joue avec mon fils d'ailleurs.
Ah! Bien, il va falloir que vous nous racontiez cette expérience-là un jour.
Un jour. Mais là, ceux qui nous en parlent, c'est le journal La Liberté au Manitoba qui ont discuté avec deux thérapeutes qui utilisent ce jeu-là, Donjons et Dragons, comme outil thérapeutique pour les jeunes neuroatypiques ou qui ont des problèmes de comportement qui peuvent influencer leur relation sociale. Ils ont été inspirés par quelque chose qui existe déjà, c'est un concept qui s'appelle Game to Grow, qui utilise les jeux de société dans cet objectif-là, mais qui ont aussi des scénarios, des modules adaptés à Donjons et Dragons, puis qui permettent de traiter des difficultés particulières chez les jeunes. Donc, en utilisant le jeu Donjons et Dragons, ce qu'on encourage, c'est les interactions sociales, le travail d'équipe, la créativité et la résolution de problèmes. Les deux thérapeutes expliquent qu'ils ont vu des jeunes vraiment améliorer leurs relations sociales grâce à ce programme-là. Ça peut se traduire comme une plus grande facilité à sortir de chez eux, donc d'être moins isolé à la maison et d'interagir plus facilement avec d'autres personnes. Puis un des deux thérapeutes à qui ils ont parlé donne des séances en français à Winnipeg. Lui, ce qu'il a vu, c'est que le jeu permet aux jeunes de trouver leur voix à travers les personnages qu'ils interprètent en répondant à des situations fictives, puis sans faire face à des conséquences négatives véritables en se trompant ou en ayant la mauvaise réponse à une interaction. Donc, ça fait une certaine pratique pour ensuite pouvoir interagir en société.
Mm-hmm. Vous êtes d'accord avec ce point de vue?
Oui, je pense que c'est le jeu permet ça de parce qu'on parle, on fait parler nos personnages, puis on improvise dans des situations, puis on essaye de trouver des solutions. Le but du jeu, oui, il y a du combat, mais ce n'est pas toujours l'objectif. Des fois, on essaye de l'éviter.
La hausse de la chasse aux caribous ne fait pas consensus au Nunavut.
C'est un sujet qui découle d'une bonne nouvelle quand même, parce que le troupeau de caribous de l'île de Baffin, qui est la plus grande île du Nunavut, là, où se trouve la capitale Iqaluit, ce troupeau-là est passé de 4 600 animaux en 2014 à 48 000 en 2024. Donc, c'est une hausse assez remarquable. Puis, d'après les chercheurs spécialisés dans l'observation de troupeaux de caribous, c'est extraordinaire, mais on est encore loin du 150 000 caribous qu'il y avait dans les années 80 sur l'île. Bon, malgré ça, la hausse a conduit le ministère de l'Environnement du Nunavut à recommander de faire passer le quota annuel de chasse de 550 à 6600 sur l'île de Baffin. Du côté des chercheurs, on est sceptique pour cette hausse-là. Oui, le troupeau est en bonne santé, mais il est peut-être trop tôt pour déterminer la véritable trajectoire démographique du troupeau. On ne sait pas s'il y a eu quelque chose qui les a favorisés, qui est temporaire, ou si la croissance va continuer. Donc, il suggère plutôt une hausse plus modeste au début, mais graduelle. Pour les Inuits, le caribou, c'est un élément traditionnel de leur alimentation et de leur mode de vie. Puis, les quotas de chasse qui ont été imposés ont vraiment affecté leur mode de vie. Il y a un intervenant dans l'article qui explique que pour 30 $, il peut mettre de l'essence dans sa matonnage, partir à la chasse, puis ramener un caribou qui va pouvoir nourrir une petite famille pendant quelques semaines, alors que pour le même 30 $ en ce moment, il va aller à l'épicerie puis il va pouvoir s'acheter un seul steak. Donc, une hausse du quota de chasse aura un impact sur l'alimentation de la communauté Inuit. Au moment où le Nunavut a publié l'article, le gouvernement n'avait pas encore pris sa décision. Là, on était encore en consultation.
Merci beaucoup, cher Julien. On se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
T'es-tu paré? Parce qu'on part tout de suite.
Veux-tu rentrer dans ma bubble? C'était Lisa Leblanc.
La Banque du Canada garde son taux directeur à 2,25% et maintient ses prévisions de croissance pour l'économie canadienne. Les données reçues depuis les dernières prévisions nous rassurent que l'économie arrive bel et bien à traverser cette période de bouleversements mondiaux, a dit le gouverneur Tiff Macklem dans sa déclaration à la presse qui a suivi l'annonce du taux directeur. Merci d'écouter Au quotidien. On est ensemble encore une demi-heure. À venir, une chanson de Claude Pelgag. Et puis, on parle avec Eric Preach, qui fait partie de la distribution de Boulevard Pérus, dont la première médiatique a lieu ce soir.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Chanson libre de Claude Pelgag.
Boulevard Pérusse, c'est le titre de la toute première pièce de théâtre de François Pérusse qui a pris l'affiche hier du théâtre Lionel Groulx à Sainte-Thérèse. Et la pièce sera présentée tout l'été et partira en tournée en 2027. Pour en parler, je joins l'humoriste et comédien animateur, etc., Éric Preach, qui est au bout du fil. Bonjour Éric Preach.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Éric, vous êtes donc, comme je le disais, humoriste, comédien, animateur, créateur de contenu. Comment vous décririez le moment que vous vivez actuellement dans votre carrière?
Ben, c'est un peu irréel, en fait. Je veux dire, c'est vraiment irréel, en fait.
Comment ça?
Ben, y a certaines personnes qui m'ont demandé, un de mes cousins, Anders, on le salue d'ailleurs, m'a demandé, est-ce que tu réalises que c'est François, c'est ce qu'on écoutait, là, dans le sous-sol de chez ma tante, là, est-ce que tu réalises que là, tu es dans une pièce de théâtre? Est-ce que c'est quelque chose que tu n'aurais jamais pensé? J'aurais jamais pensé qu'il y ait même un théâtre de François Pérusse. Donc, ouais. Moi qui joue dedans, c'est encore plus irréel. T'sais.
Mais comment c'est arrivé? On vous a approché de quelle façon? Vous avez passé l'audition? François Pérusse vous a appelé?
Ah, moi, j'ai fait de l'audition. J'ai passé une bonne vieille audition. Évidemment, je veux dire, moi, le théâtre, petite parenthèse, le théâtre, c'est quelque chose qui me terrifie.
Okay? Ah oui. Pourquoi?
C'est pas comme de l'humour. Mais l'humour, c'est mon texte.
Oui.
C'est moi qui l'ai écrit.
Vous avez le contrôle de la situation.
J'ai du contrôle. Si je me trompe, les gens ne savent pas, c'est mon texte. Je peux peux jouer comme je veux. Le théâtre, c'est pas mes mots, c'est pas mon interprétation. En plus, je considère que jouer du Pérus, c'est plus difficile que jouer du Shakespeare, parce qu'il y a personne qui est fan de Shakespeare comme il y a des fans de Pérus. Il y a une signature à Pérus qui est très, 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 très...
Oui, vous pensez qu'on vous attend avec une brique puis un fanal?
Peut-être pas une brique puis une fanale, mais de l'excitation qui peut s'apparenter à une brique puis un fanal si c'est pas fait de la bonne façon. Ouais.
Mais est-ce que le théâtre de Pérus ressemble beaucoup à ce que vous écoutiez quand vous étiez jeune, à son humour qu'on entend à la radio, dans ses albums, ses cassettes dans le temps?
Oui, l'humour de Pérus est définitivement là. Il y a définitivement des petites surprises durant le show, hein, des petits rappels, j'en dirai pas plus.
Les clins d'œil.
Les petits clins d'œil. Ouais. Pardonnez-moi le terme anglophone, des Easter eggs, des cocos de Pâques, je sais pas si c'est quoi le terme en français, mais oui, il y a des,
ouais, des cocos de Pâques. Mais vous dites, Éric, que c'est plus difficile que jouer du Shakespeare, en tout cas selon vous, là, vous n'avez jamais joué du Shakespeare, mais je comprends l'idée là, que les gens qui adorent Pérus s'attendent à ce que la livraison soit digne de celle que François Pérus nous donne. Mais est-ce que votre sens du rythme, de l'improvisation, parce que vous êtes un humoriste à la base, vous aide à jouer dans cet univers-là?
C'est plus mon côté danseur, parce que mon aisance sur scène va être là.
Danseur?
Grande... Oui, j'ai fait de la danse.
Oui, c'est vrai.
Danse, d'ailleurs. Mais, je veux dire, c'est une grande chorégraphie avec mes partenaires de jeu. Donc, c'est un peu ça, tu sais. C'est ça que c'est. J'ai appris le théâtre, en fait.
Est-ce que c'est votre première expérience?
Oui, 100%. OK. 100%.
Wow.
Donc, j'ai apprivoisé le théâtre avec la meilleure gang, avec la meilleure équipe, avec le meilleur
metteur en scène.
Le meilleur metteur en scène, oui. C'est formidable aussi. Là, Hugo est très... Tu sais, il va se lever, nous montrer des trucs. C'est pas juste pointer au doigt et à l'œil, crier. Là. Lui, il est là pour nous, avec nous. Puis il fait une excellente job.
Donc, ça vous rassure d'être bien entouré. Donc, on va les nommer, les autres comédiens. Ève Landry, Martin Héroux, David-Alexandre Després, Marie-Ève Trudel, Philippe Racine, une solide distribution. Est-ce que vous avez senti la chimie tout de suite dans le groupe?
Oui, ouais. Absolument. C'est du monde qui savent travailler, c'est du monde qui travaille fort, c'est du monde qui sont très, très généreux de leur personne, puis aimables. Puis ils savaient que c'était ma première en fait. Fait que tu sais, j'ai eu beaucoup de support là-dedans, donc c'est le fun. On a du fun sur la scène, on a du fun hors de la scène. Donc,
c'est important. Oui,
ouais, 100%.
Bon, hier, je sais qu'il y a eu une avant-première, là. Si je ne me trompe pas, il y avait une représentation hier?
Oui.
Bon, alors dites-nous tout. Comment ça s'est passé?
Ça s'est super bien passé.
Oui.
Ça s'est super bien passé. Les gens sont au rendez-vous, ils aiment ça. C'est les gens ont du plaisir aussi. Donc, c'est le fun à voir, c'est le fun à vivre. C'est une très belle expérience. Mais pour le public, on sent que c'est une bonne expérience pour le public aussi. Là.
Bon, bien, c'est ce qui compte. Bien, c'est ce qui compte. Il faut que vous vous amusiez sur la scène, mais il faut que le public aussi s'amuse. Alors, c'est une mise en scène d'Hugo Bélanger. Est-ce que vous considérez qu'il a bien compris l'univers imaginé par François Pérus?
Ah, absolument. Hugo, c'est pas n'importe qui non plus. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Oui. Mais il a vraiment su cerner les enjeux dans la pièce qui auraient pu être problématiques et difficiles. Puis en plus, il a vu que toutes les personnes qui jouent dans la pièce sont des fans. Il était très ouvert aussi aux suggestions qu'on apportait pour certains gags.
Mais vous parlez d'enjeux. Quels sont les thèmes abordés par la pièce Boulevard Pérus?
Ben, je veux dire, les thèmes, il y a différents thèmes, là. Je veux dire, il y a la famille, les thèmes comme, un peu de, comment je pourrais dire, de critique politique, on pourrait dire, là.
Ah oui?
Oui, on pourrait vraiment dire, il y a un peu une satire là-dedans, là, définitivement, mais c'est quand même assez léger, là. On rentre pas dans du
trop sérieux, du trop grave.
Trop sérieux, trop grave, mais quand même, c'est très actuel, en fait.
Et est-ce que votre personnage... parlez-nous de votre personnage. Là, quelle place il occupe dans l'histoire?
Personne joue juste un personnage, en fait.
Ah, mais c'est encore plus
Pérus,
intéressant.
Ça a jamais été juste un personnage. Il y a toujours différents personnages qui interagissent ensemble. Donc, tu peux pas faire une heure et demie de François Pérus puis avoir 16 personnages. C'est comme quelque chose qui a jamais existé dans cet univers-là. Donc, on en fait plus qu'un, chacun.
Vous en avez combien, vous?
Moi, j'en ai 4.
4. OK. Est-ce que vous en avez un préféré?
Est-ce que j'en ai un préféré? Oui, quand même.
Il s'appelle comment?
Quand même. Il s'appelle Gary. Je veux vraiment pas en dire.
OK. Non, non, faut garder la surprise.
Faut garder la surprise. Oui. Mais oui, je pense que c'est ça. J'en ai un. Gary.
Et est-ce qu'on définit la pièce de François Pérus, Boulevard Pérus, comme une comédie à sketch?
Ben, je veux dire, c'est une histoire. Il y a un fil conducteur dans tous les sketchs. Mais il y a une histoire. Fait que oui, c'est des sketchs, mais il y a une histoire, en fait. C'est un peu à la sitcom. C'est un...
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si on regarde un format là, 22 minutes là, à la télévision, là, de ce qu'on a pu voir à la télé, là, des sitcoms ben, américains ou même québécois, il y a différents sketchs qui font une histoire en tant que telle. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu la même chose.
Vous avez dit en entrevue au Journal de Montréal à Bruno Lapointe que François Pérus était une de vos idoles et qu'il vous a sauvé la vie. C'est ce qui m'a sauvé. C'est ce que vous avez dit.
Oui.
Pourquoi?
Ben, t'es au primaire, au secondaire, c'est pas facile. Tu te cherches. Hein? Je me cherchais, puis je me trouvais pas. C'est pas nécessairement facile avec les camarades de classe, pas nécessairement super facile non plus à l'école. Donc, tu sais, c'est pas une belle période de ma vie, là. Il y a pas beaucoup de soleil, en fait. L'école, c'est beaucoup d'angoisse. Déjà, je suis pas bon à l'école. Hein? Un trouble de déficit de l'attention, c'est pas quelque chose qui existe. On me disait que je faisais semblant d'être hyperactif. Mot que je ne savais pas épeler à ce moment-là. Donc, puis là, j'avais, tu sais, en se faisant intimider et tout, tu sais, à un moment donné, tu te retrouves seul avec toi-même. Tu sais, j'avais pas la sagesse de Moustaki dans ce temps-là, là, d'être seul avec ma solitude. Là. Moi, j'étais seul, tu comprends?
Ouais. Donc, c'était souffrant.
Oui. Fait que, dans le fond, ma mère m'a acheté dans un Noël, 7 cassettes. La cassette Pomme 2 de François Pérus. Déjà que le matin, je me réveillais avec les 2 minutes du peuple de François Pérus à la radio. Là, j'avais la cassette dans mon Walkman jaune flash. et il m'accompagnait tous les jours, en fait. Donc, quand il y avait un petit peu plus de solitude, j'avais mon François Pérus avec moi, puis ses sketchs, puis ses personnages. En fait, en audition, j'ai dit aux personnes qui m'auditionnaient, « Hey, moi, c'est super simple, OK? Moi, je vais être là. » Fait que c'est à vous de décider. Est-ce que ça va être dans la salle ou sur la scène? Ça, c'est vous qui décidez, mais moi, je vais être là.
Vous avez été irrésistible dans votre façon de présenter votre amour pour François Pérus. Est-ce que c'est lui qui vous a donné envie de devenir humoriste?
Ben, c'est que je pensais pas à être humoriste.
Non.
Puis, François, non, parce que François, je le voyais comme quelque chose d'autre. Tu sais, je veux dire, quand il a gagné des trophées d'albums de musique, oui, c'était de la musique, parce que je veux pas, il faisait partie des palmarès avec ses chansons ludiques, mais je le voyais pas comme du stand-up, je le voyais comme c'est autre chose, un autre génie qui composait sa musique, qui composait ses sketchs, qui composait ses personnages. C'est un autre sorte de génie, tu sais.
Ouais.
C'est à peu près ce que... C'est deux choses, en fait, François Pérus, c'est ce qu'un peu on voit avec Arnaud Soli, avec Pierre-Yvoire Desmarais aujourd'hui. Mais dans le temps, François Pérus, là, c'était l'Internet avant l'Internet. Là. On donnait des répliques de Slapshot, des répliques de Elvis Graton, puis des répliques de François Pérus. C'était l'affaire qui était le plus rassembleur.
Oui. C'est ce qui, quand vous dites ça vous a sauvé, c'est que ça vous a lié aux autres parce que vous appreniez, veux pas, vu que vous l'écoutiez à répétition, cet album-là que votre mère vous a offert. Mais c'est rentré en vous, puis vous avez partagé les gags et ça a fait en sorte que ça crée des liens.
Absolument.
Oui. Et est-ce que François Pérus est sur la scène ou dans la salle ou il n'est pas là?
Ben, c'est l'univers de François Pérus, dont François est toujours un peu là.
OK. Vous, en
vous, vous voyez que je suis en train de faire une bonne job pour pas
oui.
dévoiler. Mais François est toujours okay. là.
Il est toujours là.
Il est très présent.
Bon, alors, est-ce que vous allez avoir le temps de faire d'autres projets? Parce que là, ça vous occupe quand même pas mal, là, tout l'été, Boulevard Pérusse, puis la tournée qui va commencer, je pense, au printemps 2027. Oui. Vous allez présenter la pièce un petit peu partout à travers le Québec. Mais sinon, est-ce que vous avez le temps de faire autre chose, Éric Preach?
Ben, je m'occupe de ma chaîne YouTube, mais sinon, pour l'été, moi, je m'occupe et je me consacre à cette pièce-là, vu que, tu sais, c'est nouveau pour moi.
Ouais.
Donc, tu sais, j'ai bien performé, donc j'ai vraiment libéré mon horaire pour vraiment être capable de bien me concentrer pour ça. C'est sûr que, bon, une fois de temps en temps, je vais peut-être aller au Bordel Comedy Club une fois de temps en temps, juste pour me dégourdir un peu, retourner dans mes vieilles bottines. Mais sinon, je me concentre là-dessus sur pour le mois de juillet et août. Sinon, entre du mois de septembre jusqu'à quand on recommence pour la tournée, je vais probablement retourner puis essayer de faire du rodage à gauche à droite, là.
Est-ce que la première médiatique qui a lieu ce soir vous donne un trac particulier?
Non, moi, j'ai pas le trac.
Non?
C'est sûr que cinq minutes avant d'embarquer sur le stage, oui.
Oui.
Mais c'est quelque chose qui dure 30 secondes, que je suis comme j'aime. C'est plus la fibrilité que du trac.
Ah oui, donc vous n'avez pas un trac qui vous fait perdre le contrôle ou
non.
qui vous paralyse?
Non, j'ai vu des gens avoir le trac, puis moi, c'est vraiment pas ce que j'ai, là. J'ai pas ça. J'ai une conscience du travail que je vais devoir faire. Puis je pense que je vais m'appliquer à ça, je vais me concentrer à ça. C'est un respect aussi de mes camarades ouais. de jeu. Mais ce trac-là, c'est pas exactement ça. C'est de la concentration puis de la fibrilité.
Et vos camarades de jeu, qu'est-ce qu'ils pensent de votre jeu, justement, à vous?
Les camarades de jeu ont été témoins du travail qui a été fait et de où je pars.
Ouais.
En fait. Donc, je pense que mes camarades de jeu, ben, de ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit que je travaillais fort, que c'est bien me voir jouer, c'est bien voir la courbe d'apprentissage. La courbe d'apprentissage était très, très raide.
Oui.
Très intense, ouais. définitivement. Mais je pense que j'ai ma place, puis c'est une bonne chose à savoir. Là. Quand Ève Landry, quand Martin Héroux, quand ces gens-là qui ont travaillé pendant des années dans le domaine, d'une genre que tout le monde a un bagage vraiment énorme, mm-hmm. viennent te dire que tu fais la job, ça fait chaud au cœur.
Ah, je comprends. Est-ce que vous diriez que jouer dans Boulevard Pérusse, c'est comme réaliser un rêve?
Ben, c'est un rêve que j'avais. Je savais même pas que j'avais. C'est un rêve que je savais même pas qu'il était possible.
Ah oui.
C'est plus loin qu'un rêve, là. Déjà, faire du théâtre, ça me terrorise. Donc, déjà que j'ai apprivoisé ça, de un. De deux, c'est faire du Pérusse, c'est fantastique. Puis, écoute, je gagne ma vie en faisant ce que j'aime. Je peux vraiment pas me plaindre. Qu'est-ce que je veux de plus?
C'est très touchant de vous entendre. Est-ce que votre famille sera dans la salle ce soir?
Ma famille a été là pendant la générale. Ils sont éblouis, en fait.
Ah oui?
Oh, ouais. Il y a juste ma blonde qui était comme, enfin, tu fais ce que tu veux puis que tu fais ce que t'aimes, tu sais. Mais c'est de l'encouragement. Mais oui, sinon, ils sont très, très, très contents.
Est-ce que vous allez jusqu'à penser, délaisser l'humour pour vous concentrer au théâtre?
Délaissé, non. Mais la porte est définitivement ouverte, par contre. T'sais, je veux dire, là, il n'y a plus cette terreur, cette grande terreur-là du théâtre. Je vois comment c'est possible de travailler, là, comment c'est possible de faire des trucs. Il y a bien des choses qui ont été démystifiées. Je pense pas que je vais délaisser. Mais ouais, c'est une porte qui est quand même ouverte. Là.
Une autre porte qui s'ouvre pour vous, Éric Preach. Bien, merci beaucoup pour cette entrevue en cette journée bien particulière, puisque c'est la première médiatique, je le rappelle, de Boulevard Pérusse aujourd'hui même. Ça se passe au Théâtre Lionel Groulx de Sainte-Thérèse. J'imagine que la salle est climatisée?
Oui! On l'a vu hier, là. C'est climatisé.
C'est comme un prérequis. Merci beaucoup, Éric, et à une prochaine.
Un plaisir.
Bon été.
Au revoir.
laisse perdre la douceur, mais elle est une bête emballée. Je vais au Limbe les vendredis et tous les autres jours que je peux. Viens avec moi aux étourdis. Si tu veux, tu peux dire adieu. C'est bête à folie. Ensorcelée, sans calme et sans repos jamais. Ensorcelée. Inscription mathématique, quelques lois de probabilité pour soulager les excentriques dont l'âme est emballée. Ensorcelée, sans calme et sans repos. Ensorcelée, sans calme et sans repos.
Daniel Bélanger, une chanson qui ne vieillit pas, ensorcelée.
Dans le journal Accès, on parle de Éliane Parent, qui veut faire rire plus fort que l'accident. Texte écrit par Louis-Philippe Forêt-Godet, près de 20 ans après avoir dû réapprendre à parler, à marcher et à reconnaître le monde, Éliane Parent prépare son premier spectacle d'humour avec une lucidité désarmante. Elle avait 18 ans lorsque sa vie a changé brusquement. Le 19 mai 2007, elle célébrait son anniversaire avec des amis. Sur la route 117 à Sainte-Adèle, leur voiture a été percutée par une conductrice multirécidiviste de l'alcool au volant. Éliane ne garde aucun souvenir de l'impact. Les autres lui ont raconté ce qui s'est passé. Victime d'un traumatisme crânien très sévère, elle a passé 6 semaines dans le coma. Son hospitalisation a aussi été marquée par une embolie pulmonaire et des arrêts cardiaques. À son réveil, elle ne reconnaissait même plus ses parents. « J'ai reparti ma vie à zéro. J'ai tout appris comme un enfant qui naît. » Elle a dû réapprendre à parler, à marcher, à accomplir les gestes du quotidien. Encore aujourd'hui, elle vit avec des troubles de mémoire, d'équilibre et d'orientation. Une agnosie visuelle complique également la reconnaissance des personnes, des objets et des lieux. Pourtant, Éliane avance. « Moi, je n'avance pas vite. J'avance avec une canne, mais j'avance pareil. » La récente condamnation de la conductrice a ravivé le choc. Cette dernière a été condamnée après 4 nouvelles infractions de conduite avec des facultés affaiblies commises en 9 mois. Éliane ne cache pas son inquiétude. Cette femme-là a changé ma vie, mais je ne lui en veux pas. Je suis surtout inquiète pour les personnes qui pourraient encore être massacrées. Son absence de rancune ne signifie pas l'indifférence. Selon elle, la conductrice n'aurait jamais dû reprendre le volant. Tout le monde contrôle ses propres gestes. Cependant, elle reconnaît aussi que les dépendances sont complexes. Les personnes responsables peuvent parfois être elles-mêmes prisonnières d'une histoire difficile. Aujourd'hui âgée de 37 ans, Eliane refuse d'être définie uniquement par son handicap. Elle rêve plutôt d'une scène, d'un personnage de clown et d'une salle qui éclate de rire. Le projet mûrit depuis la pandémie. Depuis, elle a suivi des cours à l'École nationale de l'humour et des ateliers d'improvisation. Elle remplit aussi des cahiers de blagues et d'idées. « Je me trouve drôle, mais je veux que le monde me trouve drôle », lance-t-elle. L'humour lui permet surtout de reprendre le contrôle de son récit. « Je me fais remarquer depuis 19 ans juste parce que je suis une personne handicapée. Je ne veux pas être seulement ça. » L'Association québécoise des traumatisés crâniens qu'elle fréquente depuis 2010 lui offre un important espace d'appartenance. Elle participe aux activités, donne des conférences de sensibilisation et rédige bénévolement pour le journal Le Phoenix. Son objectif demeure le même, montrer qu'un traumatisme crânien ne définit pas une personne. Son regard ne s'arrête pas à sa propre histoire. Eliane parle avec passion des inégalités, de l'exclusion, de la peur de la différence et de la place accordée aux personnes vivant avec un handicap. Elle défend aussi une vie plus respectueuse de l'environnement. Acheter des vêtements usagés, éviter le gaspillage alimentaire, composter ou réduire sa consommation sont à ses yeux des gestes qui peuvent réellement faire une différence. Tout est relié, répète-t-elle. Pour Eliane, protéger l'environnement commence par les gestes les plus simples. Elle croit aussi que la société gagnerait à ralentir, à réfléchir davantage et à faire preuve de plus d'empathie. Derrière le personnage de clown qu'elle construit depuis plusieurs années, se cache une personne profondément engagée, une personne qui transforme les obstacles en matière première et qui refuse de laisser son accident écrire la suite de son histoire. « Je ne veux pas juste être mon handicap, je veux faire rire, faire réfléchir et montrer qu'on peut encore rêver. » Alors, voilà le portrait de cette femme qui nous impressionne. Elle s'appelle Eliane Parent et on en parle dans le journal Accès. On lui souhaite de participer, si tel est son désir, au festival Juste pour rire un jour, le festival qui s'ouvre aujourd'hui et ce jusqu'au 26 juillet. Et c'est là-dessus que je vous dis un grand merci d'avoir été à l'écoute de l'émission. Merci à Mathieu Tessier à la mise en onde. Ici Hélène Denis. Bonne journée. À demain.